dans laquelle nous sommes placés a été acquise non pas par nos mérites, mais pourtant acquise à un prix très élevé par la mort de notre Seigneur, de Christ lui-même. Nous sommes placés dans cette liberté, liberté de fils, en opposition à la servitude de l'esclave. Et nous nous sommes rendus compte que Satan n'aime pas que les croyants restent dans cette liberté. Parce que cette liberté, donc, non pas de faire ce que nous voulons, et nous pouvons bien souligner qu'un seul peut faire ce qu'il veut, selon le conseil de sa volonté, c'est Dieu, Éphésiens 1. Tout homme, donc, est soumis à Dieu. Et l'enfant de Dieu a cette possibilité en lui-même, cette nouvelle vie qui est en lui, l'Esprit de Dieu qui est la puissance de cette vie, d'accomplir le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Et nous avons ce merveilleux modèle en Christ lui-même. Ma viande est de faire la volonté de mon Père. Et lui, comme homme, était soumis à son Dieu. C'était son plaisir de faire la volonté de son Dieu. Ce n'est pas merveilleux? Quelquefois, on a, pour ceux qui ont des enfants, ils ont bien vu leurs enfants avoir ce désir aujourd'hui. Je vais te faire plaisir toute la journée. Et puis, pas une heure passe, et c'est une colère, une désobéissance, et tout est mis par terre. Eh bien, l'enfant de Dieu, qui a trouvé une relation d'amour avec son Père, qui jouit de cette relation-là, peut, pendant sa vie, glorifier son Père, de manière que son Père puisse se réjouir et dire, tu es mon fils, voir dans son enfant quelqu'un qui lui fait plaisir. Et nous avons donc cette possibilité, mais Satan n'aime pas. Et Satan trouve des moyens, et voilà ici un moyen qui nous a été présenté pour venir à la servitude de la loi. On nous a bien présenté que ce n'est pas la circoncision qui nous inquiétait, mais ce principe légal dans lequel nous avons toujours tendance à revenir, nous enlève cette joie dans la vie chrétienne et nous empêche de répondre aux désirs de notre Dieu. Nous avons ce verset de 7, « Vous courriez bien, qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité ?» Il y a donc dans cette liberté une obéissance. Nous trouvons là pas un contraste, mais c'est bien là, obéir à la volonté avec cette puissance qui nous est donnée dans cette vie nouvelle que nous avons lorsque nous avons pris. Mais alors, un verset important, nous aimerions qu'il nous soit bien précisé. Il nous est parlé au verset 9 d'un peu de levain qui fait lever la pâte tout entière. Qu'est-ce que le levain? Qu'est-ce que cette pâte? Est-ce que si les fausses doctrines comme celle-là, d'ajouter à l'œuvre de Christ la circoncision, est-ce que c'est important pour quelques personnes ou pour beaucoup de personnes? Est-ce qu'on pourrait nous parler de ce verset 9 qui semble donc entraîner tous les croyants, avoir une influence sur tous les croyants?
C'est déjà un principe mauvais qui peut se développer dans toute la pâte du corps. Le vin des pharisiens, le vin des sadducéens, le vin des hérodiens. Ces groupes particuliers, les pharisiens en particulier, dont on a dit un mot tout à l'heure, et qui peut se répandre, qui peut se développer et contaminer la pâte tout entière. C'est pourquoi ici, il dit un peu de vin se lever la pâte tout entière, et c'est pourquoi l'apôtre réagit si violemment à ce qui se passait chez les Galates. Et comme on a dit, peut-être que ça pouvait paraître sans trop d'importance, la circoncision, ou se plier à quelques ordonnances juives. Bien, ça avait une très grande importance parce que toute la pâte pouvait en être souillée et tous pouvaient être amenés alors à rejeter Christ en fait pour se replacer sous la loi. C'est le danger du levain, de laisser plutôt un peu de levain s'introduire. On avait déjà cette même l'exhortation, cette même remarque dans les Corinthiens, bon, je trouve c'est trop simple, hein. Premier aux Corinthiens, chapitre 5, c'était à propos de l'incestueux, donc le fornicateur, et il fallait donc ne plus avoir de commerce avec un tel homme, il fallait marquer la réprobation de l'assemblée, il fallait retrancher, ôter le méchant du milieu de vous-même. Pourquoi? Parce que un peu de levain fait lever toute la pâte, et question du levain. Au verset 7, je crois, ôter le vieux levain afin de vous donner une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Si on avait laissé cette action condamnable, si on l'avait laissé sans la condamner, eh bien, l'exemple aurait pu entraîner des imitations ici et là. On aurait pu dire, eh bien, ça n'a pas d'importance, continuons dans ce chemin-là, nous faisons ce que l'on veut. Et il en est plus dans les domaines, quant à la doctrine, même pas de la doctrine. Si les choses ne sont pas redressées immédiatement, et Paul les redresse tout de suite, elles peuvent s'étendre. Un peu de levain fait lever toute la pâte tout entière.
On trouve donc ici les deux grands caractères du mal. Le mal moral, en 1 Corinthiens 5, et le mal doctrinal, en Galates 5. Les deux formes de ce mal sont caractérisées par le symbole du levain. Nous avons la parabole bien connue que le Seigneur présente en Matthieu 13, au verset 33, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi trois mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. » Alors insistons bien que le levain dans la parole est toujours un symbole du mal, de l'iniquité, dans le sens de quelque chose qui s'étend et qui corrompt le milieu dans lequel il est placé. Ce n'est jamais un symbole de quelque chose de bon, comme cela se dit parfois dans la chrétienté, dans l'enseignement.
D'ailleurs, l'apôtre vient de dire, la persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette doctrine ne venait pas de celui que vous avez appelé, ne venait pas de Dieu. Persuadé n'était pas envoyé du Seigneur.
Alors, dans la parabole du levain, parmi trois mesures de farine, nous avons donc cet enseignement que la fausse doctrine a été introduite dans le royaume dès le début. Elle a pénétré la masse tout entière. C'est l'enseignement que le Seigneur donne ici, quant à l'Église professante, une femme qui la représente, et la farine, comme on l'a dit, qui évoque la personne de Christ. Donc l'enseignement qui est donné à cet égard. Quelle importance en effet primordiale l'enseignement qui est donné concernant la personne même du Seigneur. Et donc ici, comme on le disait tout à l'heure, les Galates étaient détournés. Ils avaient été enseignés fidèlement par l'apôtre, qui les avait vus au moins deux fois, on l'a rappelé au début de cette réunion. Premier voyage, deuxième voyage missionnaire, et ensuite, retenu les voies, mais très rapidement sans doute, le faux docteur judaïsant avait introduit cette fausse doctrine, ajoutant à la grâce.
Le vin est dans la parole, donc, un symbole du mal. En Lévitique 2, lorsque l'offrande de bateau devait être présentée, deux choses ne peut pas apparaître dans l'autel de Dieu, ni le miel, ni le levain. Le levain est le symbole du mal, et le miel est le symbole des affections naturelles qui portent leur place de face devant Dieu, de face devant Dieu, pour sacrifice qui peut être fait. Lorsque dans Lévitique 23, il était question des deux pains qui étaient offerts à l'occasion de la fête des semaines, ces pains étaient cuits avec du levain. Pourquoi? Parce que le levain est en nous, en chacun de nous. Et l'Église, corps responsable sur la terre, constitué de rachetés, mais d'êtres humains, comporte encore en elle-même le principe du levain. Et pour répondre à la question de notre frère Christian, qui est je crois pour la jeunesse, d'une importance primordiale. Le levain, le principe du mal, n'est pas dans la nature humaine, n'est pas dans le corps. Nous ne sommes jamais invités à mourir à la nature. Nous sommes invités à tenir pour mort les actions de la chair. Et le grand principe du gnosticisme autrefois, qui a tellement fait de ravages dans l'Église de Dieu, dans les premiers siècles, a été de dire que le mal était dans la nature et dans la matière. La matière est mauvaise. L'homme en lui-même est, pour ainsi dire, créé mauvais. De sorte qu'il n'y a plus de barrière au péché. Ça n'est pas cela. Le Seigneur a participé à la nature humaine en toutes choses. Il est même question du sang et de la chair en rapport avec la nature parfaite de Christ. Donc le mal n'est pas là. Le mal est dans la partie tombée de l'être, ce que Romains 6 appelle la chair. Et nous ne sommes pas indépendants les uns des autres. Un peu de levain en moi, si je ne veille pas, va souiller toute l'assemblée, doctrinalement ou moralement. Nous sommes collectivement responsables. Donc chacun à notre place, nous avons à appliquer le seul secret, c'est la mort de Christ à la chair qui est en nous. Et voilà ce que c'est que d'asservir son corps. Ça n'est pas de vivre dans l'ascétisme. Ça n'est pas particulièrement de faire du sport pour essayer de développer son corps. Les deux choses peuvent être un danger. C'est d'appliquer la mort de Christ à la partie tombée de l'être. Voilà la sobriété dont parlait, la tempérance dont parlait notre temps sur André tout à l'heure. C'est d'appliquer ces principes moraux à l'être tombé en nous. Le chrétien est un être complexe. Nous sommes dans cette situation temporaire, ambiguë et provisoire, disait M. Jouy. Nous avons en nous deux natures, la mauvaise et la bonne. Deux créations, l'ancienne et la nouvelle. Mais les mêmes facultés humaines sont à la disposition des deux. Et c'est ce que nous disait Romains 6, le dernier passage, je crois, verset 22, qui a été lu tout à l'heure. Nous avons donc à placer l'ensemble de notre être tout entier, notre corps, par exemple, selon Romains 12, offrir en sacrifice vivant, c'est pour ainsi dire l'équivalent de l'offrande de gâteau de l'Évite. Nous offrons nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est notre service intérieur. La même bouche ne peut pas, dimanche matin, présenter la louange de l'Assemblée au Père et en même temps jurer comme un païen et traiter les hommes de tous les noms dans la vie professionnelle. C'est une chose qui est totalement impossible et l'Évite de jamais. On vient des choses à réviser même dans le détail. Voilà pourquoi ce levain, c'est important dans la doctrine de faire attention en nous-mêmes de sorte que nous ne soyons pas l'instrument par lequel l'Assemblée tout entière peut-être.
Justement, la différence avec ce qui se passe ici, la loi, c'est que nous avons la capacité de maintenir cette discipline. Je pense à un verset dans Romains 8, au verset 3-4. Dieu a commis le péché dans la chair afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. On a donc la juste exigence de la loi tout accomplie en nous, mais ce n'est plus d'une façon légale. C'est parce que nous marchons par l'esprit. Marchant par l'esprit, il y a la capacité de vivre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Tenir le corps en discipliné.
Le verset 7 à 10.
C'est une question. Qui est-ce qui vous a affecté? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas celui qui vous appelle. Mais il y a un peu de levain. Ce peu de levain, c'est à la fin du verset 10, celui qui vous trouve. Un personnage est venu dans ces assemblées, qui a apporté le principe légal, ajouté la loi à la grâce. Il y en a qui se sont associés à lui au verset 12, ceux qui vous bouleversent. Et alors, tout l'ensemble des Galates risque d'être contaminé par celui qui vous trompe et par ceux qui vous bouleversent. C'est du levain. Un peu de levain va faire lever toute la pâte, mais dit l'apôtre, j'ai confiance dans le Seigneur. J'ai confiance à votre égard par le Seigneur. Vous n'aurez point de résistance. Et alors je voudrais que ceux qui vous bouleversent retranchassent, soient retranchés. Il faut lutter contre lui. Il faut que cette doctrine pernicieuse des œuvres ajoutées à la grâce
soit aboutie.
Vous y renonciez, qu'elle soit vraiment enlevée. Et ceux qui persévèrent dans cette doctrine, il faut qu'ils se retranchent eux-mêmes ou qu'ils soient retranchés. Il faut qu'on ôte de eux. Pour cela, je continue bien dans une assemblée un enseignement sérieux, c'est un enseignement faux enseignement fondamental, un enseignement fondamental faux quant à la personne de Christ, dans les épîtres de Jean, par exemple, ou quant à l'œuvre de Christ, ici, il faut qu'il soit jugé, il faut qu'il soit ôté. Il peut y avoir des pensées exprimées qui ne sont pas tout à fait les mêmes chez un frère, chez un autre frère. Ça, il faut nous supporter les uns les autres. Mais lorsqu'il s'agit d'une question fondamentale, quant à la personne de Christ, quant à l'œuvre de Christ, où l'apôtre dit, si quelqu'un vous évangélise, outre ce que vous avez été évangélisé, donc il ajoute à l'évangile, qu'il soit anathème. C'est pas quelque chose d'ajouter à l'évangile, ou de dénaturer la personne du Seigneur ou du Seigneur. Alors il faut à ce moment-là, agir pour ôter le lien. Celui qui vous mène en avant, qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans vos connaissances. Qui vous mène en avant, qui n'apporte pas la doctrine de Christ, c'est grave, c'est pas dans la personne du Seigneur. Alors, il faut ôter le lien. C'est un enseignement très important, évidemment. Et il faut veiller, parce que les enseignements erronés, quant à la valeur, à la portée, à la réalité de l'œuvre de Christ, comme ici, ça ne suffit pas, c'est pas, il faut ajouter à l'évangile, l'évangélise, outre ce que vous avez été enseigné, qu'il soit à la terre. Alors, quant à vous, dans l'ensemble de l'apôtre, parle au Seigneur, le Seigneur va opérer en vous. Il le disait ailleurs aussi au verset 19, au chapitre 4. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ ait été formé. Il y a un ministère qui veut ramener ces assemblées de la Galatie. Et nous ne savons pas ce qu'elle en est advenue, mais l'apôtre avait confiance parmi le Seigneur, c'est le Seigneur qui peut permettre. Mais vous, il faut que ceux qui vous trouvent se retranchent, que vous voulez qu'ils soient retranchés.
Il y a souvent de la ruse à l'origine du Paul-Écrit, mais ici, ce qui bouleversait les Galates, peut-être, rappelait-il que Paul lui-même avait circoncis, circoncis Timothée, acte 16. Et alors il se défend, et moi, frère, je prêche encore la circoncision, pourquoi je suis encore persécuté? Circoncis Timothée, cause d'Égypte, nous est-il dit. Mais ce n'est pas un fondement doctrinal. Au contraire, il le rejette violemment.
Et il n'avait pas circoncis Tite.
Non.
Il avait un jugement spirituel à ce sujet.
Nous avons le même problème qui se présente dans le livre des Jacques, que je retiens. Et c'est que cette circoncision n'est pas approuvée par les apôtres et par les anciens. La preuve, c'est qu'au chapitre 24, nous voyons que ceux qui apportaient cette philosophie étaient sortis du milieu d'eux. Puisque nous disons, comme nous avons ouï dire que quelques-uns sont sortis d'entre nous, nous sommes troublés par des discours bouleversant vos âmes, disant qu'ils vont être circoncis et garder la loi, auquel nous n'avons donné aucun nom. Ce qui montre bien que déjà l'adversaire extérieur pour intégrer donc cette doctrine dans la foule. Mais ce qui est important de remarquer ici, c'est que ceux qui le faisaient, ou bien devaient être retranchés, ou bien se retrancher de même.
Nous ne pouvons pas être insensibles et indifférents à l'égard du mal, de quelque forme qu'il se présente. Car le levain, en effet, vient l'image d'un élément corrupteur, que ce soit sur le plan moral, 1 Corinthiens 5, ou sur le plan doctrinal, 1 Corinthiens 6. Sur ce dernier plan, nous avons peut-être, courons peut-être le danger d'être moins attentifs en estimant qu'il s'agit peut-être d'une affaire d'opinion et que sur le plan du support mutuel, du support fraternel, il nous faut accepter certaines choses. Sans doute, on a dit tout à l'heure, il peut arriver que nous différions sur des questions secondaires, sans doute, nous ne connaissons qu'en partie. Mais l'Esprit de Dieu prend toujours le plus grand soin de la gloire du Seigneur ou de la valeur de son œuvre. Ce que nous pouvons dire, sans nous tromper, sans équivoque, c'est qu'un enseignement qui porte atteinte à la gloire du Seigneur, sous quelque forme que ce soit, si même elle est atténuée, si même elle est introduite avec beaucoup de précautions, parmi les Galates, le faux docteur s'était introduit furtivement. Les porteurs de fausses doctrines sont très habiles pour s'introduire furtivement, disons-nous, et s'insinuer parmi nous. Nous devons être très attentifs et nous pouvons bien redire qu'un enseignement qui porte atteinte à la gloire du Seigneur ou à la valeur de son œuvre ne peut être en aucune manière celui de l'Esprit de Dieu. Celui-là me glorifiera et il vous conduira dans toute la vérité. Le vin, en tout cas, depuis aux Galates, est donc un enseignement frelaté. Pour avoir un enseignement frelaté, il a fallu d'abord qu'il y ait la vérité, une déformation de toute ou partie de la vérité que l'on introduit et qui corrompt la vérité. Parce que la vérité est exclusive. La vérité ne supporte aucun mélange. Ou sinon, elle n'est plus la vérité. La pensée de Dieu dans son intégrité. L'erreur, au contraire, elle accepte d'être mélangée, d'avoir une toute petite place, mais elle sait bien, comme le disait quelqu'un, que si nous lui donnons audience sur le bout du banc, elle aura bientôt tout le banc pour elle. Un peu de levain. Dans un barrage, chacun a bien des souvenirs précis à cet égard. Il suffit d'une petite fissure pour le profane, on voit un peu d'eau qui suinte, on se dit, oh, ce n'est pas grand-chose. Mais l'homme averti sait bien que c'est la mort d'une rupture qui, un jour ou l'autre, ne manquera pas de se produire à partir d'une toute petite fissure qui peut paraître tout à fait insignifiante au départ. Mais c'est par là que le barrage va céder et que toute la vallée sera inondée, anéantie. Un peu de levain opère par fermentation la corruption de toute la pâte. Qu'est-ce qui peut arrêter le levain, l'action du levain? Nous venons de l'entendre avec cette expression retranchée, c'est le jugement. Et dans Lévitique 23 qui a été cité, il y avait dans les deux pains de la nouvelle offrande, après la Pentecôte, les deux pains du côté juif, du côté gentil, qui ne forment plus qu'un pain, mais ils sont présentés avec du levain. C'est un des cas très rares où il y a du levain dans l'offrande. Mais vous les cuirez avec du levain. Le feu arrête la continuation de l'opération du levain. Vous les cuirez avec du levain. Le levain ne continuait pas à faire lever la pâte des pains. Ils étaient cuits, passés sous l'action du feu, comme nous. La chair est toujours en nous. Nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché en lui, il se séduit lui-même. Nous savons bien l'enseignement de l'épître de Jean à cet égard. Nous aurons toujours la chair en nous. Elle ne sera jamais améliorée, ne sera jamais amendée. Elle sera toujours ce qu'elle est. Ce qui est chair. Et nous ne pouvons rien faire de ce bois. Finissons-en avec l'homme. Mais la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est le feu, le jugement, qui a été appliqué à la chair, de sorte que nous ne sommes plus sous la domination de la chair. Nous en avons fini avec elle. Et le levain que la femme prend, qu'elle introduit dans trois mesures de farine, on l'a dit aussi comme autre application, la femme est toujours
n'est pas toujours, très souvent, le symbole de l'action qui corrompt. Elle introduit, il y a trois femmes dans le Nouveau Testament qui jouent un rôle néfaste, nous le savons bien. Elle introduit ce levain dans trois mesures de fleurs de pain. Les trois grandes sections de la chrétienté ont été corrompues par le même mal dès le début de l'histoire de l'Église. L'Église orthodoxe, romaine, anglicane, ont toutes été corrompues par ce levain dont nous occupons aujourd'hui en relation avec les rites aux Galates.
L'apôtre commence au chapitre 5, « Tenez-vous donc ferme ». Au chapitre 2 de cet épître aux Galates, nous voyons comment Paul résiste en face à ses phases. Et on a peut-être là une illustration de la subtilité de ce que peut être aussi le levain. En acte 15, lors de la conférence de Jérusalem, on voit comment l'apôtre Pierre s'élève et prend la parole et défend la foi avec fermeté, avec conviction. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans son esprit et dans son cœur. Nous croyons être sauvés par la grâce, dit-il. Et puis, on voit comment on peut être ferme quant à la doctrine, quant à la découper, quant à la concevoir, quant à la vivre. Mais si nous ne tenons pas ferme, et l'apôtre Pierre est un exemple, et c'est ce qui nous caractérise peut-être souvent, que voyons-nous quand la pression des événements, l'environnement, les hommes autour, voilà que Pierre a eu peur. Et la peur s'emparant de Pierre, Pierre est faible, Pierre ne tient plus ferme le drapeau et laisse insinuer quelque chose. On a peut-être là un exemple du levain, de la subtilité, comment cela peut doucement s'insinuer. Si nous ne sommes pas, si nous pouvons dire affranchis des hommes, nous savons quelquefois c'est long, c'est difficile. Il peut y avoir en nous cette propension à ce que le levain, par ce biais-là, s'insinue.
La crainte des hommes tend un piège.
Alors tenez-vous donc ferme. Je repensais ce que notre frère Muller disait tout à l'heure en rapport avec la question qui était posée sur mortifier. Tenez-vous donc ferme. C'est bien un peu ce qui est sous-jacent dans ce chapitre 5. Quand l'apôtre dit tenez-vous donc ferme, à qui s'adresse-t-il? À quelle partie? Nous ne voulons pas faire l'introversion, mais à quelle partie de l'être l'apôtre s'adresse-t-il? C'est une question, et nous avons été jeunes, nous avons souvent buté à cette question-là. À quelle partie de l'être l'apôtre s'adresse quand il dit « Tenez-vous donc ferme ». Or, si nous réfléchissons bien, lorsque le Seigneur disait aux foules « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie », à quelle partie de l'être s'adressait-il à ces foules en elles-mêmes? « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». C'est une question que nous posons encore aujourd'hui, parce que ces foules-là, qui venaient vers le Seigneur, et qui avaient une certaine soif, mais c'était limité. Il n'y avait pas cette volonté intérieure de venir pour être sauvé. Eh bien, nous pouvons penser que ce n'était pas le vieil homme. Le vieil homme ne peut rien faire, ne veut rien de ce qui est de Dieu, nous le savons bien. Ce n'était pas le nouvel homme, il n'existait pas encore. Alors c'était quoi? Il y a donc en nous quelque chose qui veut et qui ne veut pas. Et il me semble que si nous regardons à la caractéristique essentielle de tout homme, de toute femme, dans l'humanité. Cette caractéristique essentielle, cet attribut essentiel de l'homme, c'est qu'il est libre de choisir. Si l'on sait, il a été créé à l'image de Dieu, donc il est libre de choisir. C'est l'attribut essentiel de tout individu. Si on bat cela en brèche, du même coup, on a toute responsabilité à l'individu. Donc, tenez-vous donc ferme, il y a en chacun de nous ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et toute la fin de ce chapitre 5 nous montrera que Dieu, par sa pure grâce, nous a donné une nouvelle source de puissance en nous, une puissance de vie, une puissance de marche, qui nous permet de triompher de la chair. Nous le verrons un peu plus loin. Donc, personne ne peut dire « Oh, moi je suis entraîné par telle tendance, vous voyez bien, je ne peux pas, je n'y arrive pas. » Non. Un chrétien possède en lui une source de puissance qui lui permet de faire face à cela. Mais il ne faut pas qu'il se trompe.
Le centre moral de l'homme, c'est le cœur, c'est les affections.
raison pour laquelle il est dit, garde ton cœur sur tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Nous avons cité tout à l'heure Colossiens 3, vous êtes mort, à conséquence mortifié. Mortifié quoi? Vos membres. Le Seigneur en Matthieu 15 nous dit d'où viennent ces choses que le croyant doit maintenant, auxquelles il doit appliquer la mort du Christ. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les provocations, les premiers témoignages, les injures. La partie supérieure de l'être humain créé de Dieu est son esprit. Son esprit qui le rend différent de la bête, qui lui permet d'être en rapport avec Dieu lorsque l'esprit de l'homme est éclairé par le Saint-Esprit de Dieu. Mais le centre moral de l'être, c'est par les affections. C'est les affections, c'est le cœur. La raison pour laquelle nous avons à veiller essentiellement sur les objets qui occupent nos cœurs et nous avons également à gouverner notre esprit. Je peux dire par expérience combien il est difficile de gouverner son propre esprit, particulièrement dans les activités professionnelles qui de plus en plus sont basées sur l'activité de notre esprit. Voilà où sont les exercices de la vie chrétienne, quotidienne, habituelle. Où sont vos cœurs, quelles sont les affections qui les occupent habituellement? Est-ce Christ qui est le centre et l'objet de ces affections? Christ tout et en tous. Comment pratiquement nous serons gardés ce double levain du mal moral et du mal doctrinal?
Cantique 127.
deuxième partie du chapitre qui est plus pratique. Notre frère Jacques Méchin a demandé de dire quelques mots encore sur le verset 8 de ce chapitre 5.
Ce verset 8 a une importance particulière. Et quant au danger et quant à la responsabilité, la persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. La persuasion. Il y avait donc eu ici un enseignement. Et les Galates s'étaient laissés persuader. Il y a donc le danger d'accueillir avec faveur les choses qui peuvent paraître nouvelles par rapport à ce qui est habituellement enseigné, par rapport à ce qui a été accepté. Et c'est un danger qui existe particulièrement parmi les jeunes. Et il faut faire très attention à cela. Le verset 8 a une importance particulière dans la relation entre persuasion et celui qui vous appelle. Il faut que les choses qui sont acceptées puissent être mises en relation avec le Seigneur lui-même et que nous puissions librement les accepter en relation avec sa personne. Un autre côté, c'est que si des frères qui ont fait quelques chemins de plus prêtent une oreille attentive, ou quelquefois simplement par le silence acceptent des choses qui ne peuvent pas être mises en relation avec le Seigneur lui-même, il y a là une responsabilité particulière. Je voulais simplement mettre cet accent sur ce risque parmi les jeunes d'une part et sur la responsabilité de ceux qui ont fait quelques chemins de plus de rester silencieux dans des enseignements qui sortent du cadre habituel et qui ne sont pas selon la pensée du Seigneur, sont introduits.
Ce matin, nous avons donc été occupés de cette liberté, l'aspect un peu doctrinal, de cette liberté en Christ. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une catégorie de personnes qui pouvaient encore penser gagner le ciel par des œuvres méritoires, par quelque chose qui vient d'eux, d'acquérir une certaine justice par ce qu'ils font eux-mêmes, par des œuvres qu'ils font eux-mêmes. Dans notre verset 13, nous trouvons une deuxième catégorie de personnes qui pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, puisqu'elles sont dans la liberté, et que Dieu pardonnera leur manquement. Mais l'enseignement qui nous a été rappelé ce matin, qui est comme le scandale de la croix, c'est de cette troisième catégorie de personnes qui réalisent que en elles-mêmes, elles sont incapables de plaire à Dieu. Elles ont appris que dans la chair, il n'y a point de bien et qu'il faut entièrement se remettre à Christ, qu'elles sont entièrement les objets de Christ, et que c'est en Christ, les objets de la grâce, et que c'est en Christ qu'elles pourront avoir ce salut complet, leur permettre de vivre une vie chrétienne heureuse dans la liberté acquise par Christ lui-même. Alors maintenant, nous sommes donc arrivés dans un aspect plus pratique de notre étude, dans nos relations les uns avec les autres, et aussi ce combat de la chair et de l'esprit, l'opposition entre esprit et la chair, comme on a vu l'opposition entre le contraste entre le vieil homme et le nouvel homme. C'est donc maintenant le fruit de ce que Christ produit dans un cœur renouvelé par la puissance de l'esprit qui va nous occuper.
La chair est donc toujours dans le croyant, sa vieille nature, tout en étant appelé à être tenu dans la mort, tenez-vous vous-même pour mort et pour vivant et Dieu dans Christ Jésus, mais il a reçu l'esprit. Et par l'esprit, faites mourir les actions du cœur, comme on dit. Marcher par l'esprit, vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Notre chair, notre vieille nature souhaite telle et telle chose, elle convoite. Par l'esprit, si nous sommes dépendants du Seigneur et de son esprit, eh bien, nous sommes libérés de cette convoitise. La chair combat contre l'esprit, l'esprit contre la chair. La chair désire quelque chose, et l'esprit intervient pour nous libérer. Mais l'esprit voit le chemin du Seigneur dans tel ou tel acte, ou telle ou telle attitude. Et voilà, la chair dit, ah non, je ne peux pas faire ça, mais je peux être ennuyeux. Il y a, non pas directement lutte, mais il y a interdésir. Ce que l'esprit désire, ce que l'esprit convoite, la chair s'y oppose, ce que la chair désire et convoite, l'esprit s'y oppose. Les choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Vous voudriez commettre tel ou tel acte, vous voudriez vous fâcher. Eh bien, l'esprit peut vous arrêter. L'esprit peut vous donner de surmonter ce désir de s'irriter, et au contraire, vous témoigner de l'amour. Mais l'esprit peut le faire. L'esprit nous conduit à ne pas visiter un malade. Ah, la chair se plaît à l'esprit. Non, tu n'as pas à faire, non, tu as pris ta main, non, tu as tes occupations, tu as ta famille. Et alors, la chair combat contre l'esprit. Mais le but, c'est que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. L'esprit est plus puissant. Celui qui est en vous est le plus grand que celui qui est dans le monde. La puissance de l'esprit est là, la loi de l'esprit de lui m'a affranchi, la loi du péché. Alors marchez par l'esprit, non pas sur la chair, mais par l'esprit. Et pour marcher par l'esprit, on a dit souvent, il faut que le cœur soit vidé d'autre chose, pour que l'esprit ait sa place. On a comparé cela, disons, quelqu'un achète une maison, il y a des locataires, le locataire ne veut pas s'en aller. Ou bien il dit, ben, je te donne une chambre, mais je m'en irai seulement plus tard. Le Seigneur nous a acquis pour lui-même, comme le propriétaire de la maison. Mais dans le cœur, il y a bien des choses qui empêchent son esprit de remplir la maison. Il y a des obstacles à l'action de l'esprit. Il y a des courants de pensée, il y a des manières de voir, il y a des habitudes. Et alors, pour que l'esprit puisse agir, il faut libérer toutes les pièces de la maison. Et c'est un exercice, et c'est un travail pratique. Et cela s'accomplit, bien sûr, dans la communion au Seigneur. Chacun de nous peut réfléchir quelles sont les pièces de la maison que le Seigneur a acquises qui ne sont pas mises à sa disposition. Ça ne veut pas dire qu'on va consacrer tout son temps au service du Seigneur, ça c'est un appel spécial. Mais dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle ou dans ses études, un équilibre qui donne au Seigneur et à son esprit sa place. Alors on peut marcher dans l'esprit.
Mais l'esprit ne va pas laisser les pièces de la maison vides. C'est un point qu'il faut souligner. Enfin, il va remplacer les locataires qui vont partir, qu'on doit enlever, vont être remplacés par le Seigneur, en quelque sorte, ou ce qui concerne le Seigneur, les choses de Dieu. L'Esprit va nous occuper des choses du Seigneur. Alors le cœur, au lieu d'être occupé de ce que la chair pourrait nous présenter, sera occupé des choses du Seigneur. Il y a une occupation, il y a une direction, marcher par l'Esprit.
Un conflit permanent, intérieur, individuel. Ça joue actuellement des expériences dans la vie du chrétien. D'autres passages des Épîtres de Paul nous présentent une relation collective, la responsabilité de l'assemblée sur la terre. Ici, c'est essentiellement une affaire individuelle. Et c'est une affaire à l'intérieur de soi-même. Et la grande différence entre ce chapitre de Galates 5 et le combat dans les lieux célestes de Éphésiens 6. Pour reprendre l'exemple d'Israël qui entre dans le pays de la promesse au-delà du Jourdain, la première chose que le peuple rencontre, c'est la mort à Gilgal. c'est la nouvelle nourriture que Dieu a en réserve pour son peuple, puis c'est le combat. Voilà le combat dans les lieux célestes, c'est Éphésiens 6. Une puissance spirituelle de méchanceté qui nous empêche aujourd'hui pratiquement, les rachetés du Seigneur, de prendre possession par la foi de notre héritage en Christ. Il ne s'agit pas ici de ce combat dans Galates 5. Il s'agit de l'affrontement intérieur permanent entre ce qu'il y a de tombé en nous, ce que la parole appelle la chair, la partie adamique, le vieil homme de l'être moral, et d'un autre côté la partie renouvelée, la nouvelle nature, ce qui est l'esprit en nous. Je voudrais surtout dire à nos jeunes que l'existence de ce combat ne doit pas être en soi-même un sujet de crainte ou de découragement. Au contraire, si vous avez des luttes intérieures, c'est que la vie est là. Et si vous n'étiez pas à Christ, ça vous laisserait bien tranquille à jouir du monde et à vous laisser au grand trône blanc devant le jugement des morts. Mais, puisque vous êtes à Christ, vous lui appartenez pour le temps et pour l'éternité. Satan maintenant va se déchaîner contre vous, s'acharner à vous faire perdre le salut de votre course, à vous empêcher aujourd'hui de jouir pratiquement de tout ce que nous avons en Christ. Ce n'est pas le but de Christ, qui est maintenant de nous placer dans la liberté, en nous libérant des jougs dont nous avons parlé ce matin. Le premier, c'est celui de la mort, Hébreu 2, celui de l'esclavage à Satan, Hébreu 2 aussi, celui du péché, Romains 5, de la chair, Romains 6, de la loi, Romains 7, du monde, Galates 1 et Galates 6. Voilà tous les ennemis. Dieu les a tous, sans exception, annulés à la croix. Mais la puissance de ces ennemis n'est pas, dans les effets, encore aujourd'hui annulée. Elle ne le sera que lorsque Christ aura pris en main les rênes du gouvernement du monde. Christ a annulé la puissance de Satan. Et Satan est encore autorisé par Dieu lui-même à exercer une forme de sa puissance pour séduire les nations, séduire les âmes et faire tomber les chrétiens. La chair est l'instrument dont Satan se sert pour essayer de nous faire tomber. Grâce à Dieu, nous avons en nous quelqu'un, une puissance divine, le Saint-Esprit, Dieu lui-même habitant en nous par son Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, vous en nous, vous en moi, moi en vous, une puissance qui est plus grande que celle qui est dans ce monde, une puissance qui est plus grande et plus puissante que celle de Satan. Voilà pourquoi le conflit. Bien, le but pour nous, c'est de moins en moins laisser Satan agir, de plus en plus laisser le Saint-Esprit avoir sa libre puissance en nous pour nous conduire dans ce pourquoi il nous a été envoyé, nous conduire dans toute la vérité et nous faire jouer de Christ et les résultats sont bons.
Dans les versets 16 à 26, il y a, on pourrait dire, trois grands sujets en ce qui concerne la marche. Je relèverai simplement trois expressions, celle du verset 16, « marcher par l'Esprit », puis celle du verset 18, « être conduit par l'Esprit », et celle du verset 25, « vivre par l'Esprit ». Dans les versets 13 à 15, il est remarquable de voir comment l'apôtre introduit ce sujet-là. « Nous sommes donc libres », c'est le verset 13. Et la fin de ce verset 13, il semble dire, mais attention, il y a encore la chair en vous. Et il montre ce qu'est la loi dans toute son excellence, c'est le verset 14, car toute la loi est accomplie dans cette expression qui nous est dit ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'excellence divine de la loi. Et il fait appel à l'expérience qu'avait vécu ceux auxquels il écrivait pour leur dire ainsi la chose suivante. Si vous voulez accomplir cette expression, si vous voulez aimer votre prochain, eh bien vous ne pouvez absolument pas le faire par la chair. Parce que vous l'avez fait et la conséquence, c'est le verset 15, vous vous êtes mordu et dévorer l'un l'autre. En voulant accomplir la loi, par la chair et le but était bon, eh bien vous avez manqué totalement le but. Pour ainsi atteindre ce but-là, il faut vivre spirituellement, d'où ces expressions que nous avons lues ensuite. Marcher par l'esprit, vivre par l'esprit, être conduit par l'esprit. Pour aimer son prochain, cela rejoint ce qui a été dit ce matin dans l'épître aux Romains et au chapitre 5, c'est l'amour de Dieu qui a été versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est uniquement de cette façon-là que nous pourrons aimer notre prochain.
À propos de ces expressions du verset 15, du verset 18 et du verset 25, vous notez qu'au verset 25, il est aussi question de marcher aussi par l'Esprit. Au premier verset, au verset 16, il est question de la conduite en général. C'est un peu comme il est dit dans Romains 8, verset 4, nous marchons selon l'Esprit. Nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'Esprit. Dans la Bible, en anglais, c'est traduit « marcher dans l'Esprit ». Et puis, à partir du verset 18 et au verset 25, quand il est question donc d'être conduit par l'Esprit, de vivre par l'Esprit et de marcher par l'Esprit, c'est l'Esprit qui est là comme l'énergie, la puissance qui guide, qui conduit, qui fait vivre et qui fait marcher. Donc c'est la caractéristique de la conduite, la caractéristique de la vie et la caractéristique de la marche par la puissance de l'Esprit dans ce verset 18 et 25.
Je voudrais lire un verset en Galates 2 qui n'a pas encore été placé devant vous. Galates 2, verset 20. Paul dit « Je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. »
Poser une question qui a été déjà posée plusieurs fois parmi les jeunes. Se trouve donc, comme on vient de nous l'expliquer tout à l'heure, qu'un combat existe entre l'esprit et la chair, et on a bien saisi que l'esprit désire la chair contre, en quelque sorte, et quand la chair propose, l'esprit montre en disant non, ce n'est pas le chemin. Et dans la pratique, il se trouve que plusieurs, souvent, et en particulier quand on est jeune et plus tard aussi, on se rend compte que même en connaissant cela, il arrive qu'on ne marche pas par l'esprit. On accepte, on dit non de sa bouche aux sollicitations de la chair, et puis pratiquement mes pieds, mes mains ou mes yeux, on accomplit ce désir de la chair. Alors, est-ce que c'est parce que je n'avais pas assez d'esprit? Est-ce qu'il va falloir que je supplie le Seigneur, mais donne-moi tout ton esprit, il me manque cela pour pouvoir vraiment vivre selon l'esprit? Est-ce que, justement, on ne pourrait pas nous montrer, en lisant aussi un verset de l'Éphésiens 5, en nous l'expliquant, que ce n'est peut-être pas l'esprit qui nous manque? On nous a bien parlé de chambres qui ne sont pas ouvertes dans la maison, mais est-ce qu'on ne pourrait pas pratiquement mieux nous expliquer? J'aimerais lire ce verset 18, ou déjà au verset 15 du chapitre 5 des Éphésiens. Dans le chapitre 5, donc, des Éphésiens, verset 15, « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors qu'est-ce que soyez remplis de l'Esprit Saint? Est-ce que ce ne serait pas donné abondamment pour les croyants?
Lors de la comparaison de la maison, on dit que l'Esprit était comme un gaz qui ne demande qu'à remplir la maison de par sa nature. Mais si les portes sont fermées, il n'entre pas. Ou on a comparé un seau qui est plein de cailloux et on veut mettre de l'eau dans le seau, mais voilà, il y a les cailloux. Alors j'enlève nos deux cailloux et puis il y a un peu d'eau. Mais il y en a peut-être d'autres qu'il faut enlever et alors le seau sera rempli d'eau. On peut mettre en parallèle avec le verset de Éphésiens, soyez remplis de l'Esprit, le verset de Colossiens 3, verset 16, que la parole du Christ habite en vous richement. La parole et l'Esprit vont ensemble, n'est-ce pas? Déjà dans la nouvelle naissance, la parole sur la figure de l'eau, née d'eau et de l'Esprit. Et alors, en Pierre, on est régénéré par la vivante et permanente parole de Dieu. L'eau représente la parole dans la nouvelle naissance. Parole et esprit qui produisent cette nouvelle naissance en touchant la conscience, en amenant à la foi. Et alors, dans la marche, parole et esprit vont aussi ensemble. Soyez remplis de l'esprit, mais que la parole habite en vous richement. Alors, si la parole habite en nous richement, il y a toute la place pour la parole de Dieu dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre pensée. On peut dire que les chambres s'ouvrent et les cailloux sont ôtés. C'est la parole qui nous montre ce qui est un obstacle. Mais l'esprit lui-même, de par sa nature, voudrait tout enfuir.
Du chapitre 4, verset 30, n'appliquez pas le Saint-Esprit de Dieu, auquel je vous ai scellé, l'esprit que donné entièrement. Nous avons l'esprit, nous l'avons pas. Mais peut-être attristé. Et la parole de Dieu va nous montrer ce qui l'attriste, justement. Et le travail de cette parole touche la conscience et le cœur, nous conduira à ôter, à juger ce qui attriste le Saint-Esprit de Dieu. Alors nous serons remplis d'esprit. Ce qui sera un obstacle à cette plénitude de l'esprit sera ôté.
Alors on a les cailloux avant ce verset et après ce verset. Avant ce verset, il nous est dit, parlez la vérité, chacun son prochain, mettez-vous en colère, ne péchez pas, ceux qui dérobent ne dérobent pas. Aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Puis ensuite que toute amertume, tout courroux, toute colère, toute crierie soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres. Et dans la suite, et le début du chapitre 5. Pourquoi est-ce que ce verset, n'attristez pas le Saint-Esprit, est au milieu de cette liste? C'est bien que par ces choses, nous attristons l'esprit. Alors, notre chapitre nous donne les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit.
Dans notre vie pratique, il peut s'agir utile quelquefois de distinguer entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Et puis, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est la parole qui nous permet de faire la différence. C'est la parole qui est la pierre de touche et qui est l'épée de l'esprit, qui selon Hébreux 4, un passage connu de tous, nous permet de distinguer entre la division de l'âme et de l'esprit. Ici, l'âme, ce sont les sentiments du cœur. Et l'esprit, c'est ce qu'il y a de spirituel qui tient à la nouvelle nature qui est en nous. La parole nous permettra donc de distinguer de ce qui est naturel, les sentiments du cœur naturel, et de ce qui est produit par le Saint-Esprit dans la vie de tous les jours et dans les décisions que nous avons à prendre. Notre cœur peut nous condamner, il dit dans 1 Jean 3. Bien aimé, si notre cœur nous condamne, nous
s'annonce lui de l'homme en nous et par lui de l'homme en notre cœur, et ici notre conscience, la conscience qui pourrait être exercée. Bien, nous savons que Christ, en définitive, est plus grand. Et c'est lui qui, en nous, nous aide, par la puissance de son esprit, à remporter la victoire.
Il ne faudrait pas, d'autre part, que nous tombions dans une espèce de mysticisme, rechercher, être occupé de nous-mêmes, et rechercher les progrès, mesurer les progrès que nous pouvons faire. C'est une ruse de l'ennemi de nous occuper de nous-mêmes. Le nouvel homme en nous, il est bien connu, c'est une vérité de la parole de Dieu, n'a pas de force en lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui est la puissance de cette vie. Mais plus nous en serons pénétrés, plus nous jouirons de la présence et de l'opération du Saint-Esprit en nous, moins nous nous occuperons de nous-mêmes, parce que l'Esprit ne nous occupe pas de nous. L'Esprit nous occupe du modèle parfait, contemplant la face découverte, la face du Seigneur, nous sommes transformés en son image. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, mais nous en avons la révélation du secret, parce qu'il avait parlé avec lui. La présence de l'Éternel, dont il avait joui, amenait pour lui une transformation morale qui était vue de tous, la peau de son visage rayonnait. Ce pauvre homme qui était couché sur un lit, le paralytique, Marc 2 et en Matthieu également, ne pouvait faire aucun mouvement, ne pouvait pas manifester en aucune manière un fruit de la vie qui est normal dans tout homme. Mais il était dans cette situation, spirituellement parlant, d'Éphésiens 2, déjà dans la mort, mort dans nos fautes et dans nos péchés, tout en marchant dans les convoitises de la chair. Jusqu'au moment où le Seigneur dit à cet homme, « Prends ton petit lit et marche !» Et en effet, dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons reçu la vie. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Que faut-il faire pour un mort? C'est évidemment lui donner la vie qu'il ne possédait pas auparavant. Dans l'Épître aux Romains, pour un coupable, que faut-il faire? Le justifier. Nous avons donc la justification du pécheur. Comment Dieu peut établir des rapports avec l'homme dans l'Épître aux Romains? En le justifiant. Et dans l'Épître aux Éphésiens, c'est une question là de relation. Dieu, à l'égard des morts que nous étions, nous a vivifiés avec le Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, jouissant de bénédictions, de privilèges qui sont dans les lieux célestes, comme il en était pour Israël après avoir traversé le Jourdain, jouissant de tous les biens de Canaan, pays ruisselant de lait et de miel. Mais tout en jouissant de notre position céleste dans l'Épître aux Éphésiens, nous constatons combien de fois nous avons le terme « marcher » dans cette épître. En sorte que nous marchons par l'Esprit, puissance de cette vie nouvelle, mais en considérant le modèle que Dieu nous donne, et non pas nous-mêmes, ne nous analysant pas, ne nous mesurant pas, ne nous pesant pas nous-mêmes, nous regardons au Seigneur. Sans doute, nous avons affaire avec un ennemi toujours redoutable, et il a le meilleur auxiliaire en nous, c'est notre pauvre cœur. Mais si nous marchons ainsi, ayant les yeux fixés sur le Seigneur, nous allons réaliser pratiquement cet affranchissement, cette délivrance du vieil homme. Que ce soit difficile, personne ne peut en douter. Élisée, souvenons-nous, demandait à Élie, « Donne-moi, que veux-tu que je fasse pour toi, Élisée, avant que je m'en aille au ciel ?» Et celui qui sera un homme de Dieu si remarquable, non pas pour être mis en évidence, mais réalisant les besoins auxquels il va devoir faire face et dans lesquels toutes les ressources humaines sont impuissantes. Il dit à Élie, « Donne-moi une double mesure de ton esprit sur moi. » La réponse d'Élie, c'est que tu as demandé une chose difficile. C'est une chose de recevoir l'Esprit Saint.
après avoir cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit, Éphésiens 1, mais maintenant à nous de marcher par l'Esprit. Tu as demandé une chose difficile, dit-il. Et en effet, c'est difficile parce que nous l'avons entendu, nous avons des ennemis, nous avons des adversaires redoutables, et la chair convoite contre l'Esprit. Le terme veut dire, dans l'original, paraît-il, désirer ardemment. Le Seigneur emploie ce mot lorsqu'il dit à ses disciples, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous. J'ai fort désiré, la chair désire ardemment les choses que l'Esprit repousse, sauf que c'est un combat permanent. Et l'Esprit lui désire des choses que la chair réprouve entièrement. C'est un combat perpétuel. L'un désire ardemment ce qui est repoussé par l'autre. Mais en regardant au Seigneur, nous sommes délivrés de la tyrannie de la chair en nous. Crions au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Satan nous assaille. Et un cher serviteur de Dieu disait, les mauvaises pensées sont là, nous ne pouvons pas être épargnés de la chair de ces convoitises. Mais il disait, c'est un petit exemple, un peu trivial, mais il est assez significatif, les oiseaux peuvent voler autour de moi, mais j'ai la capacité, j'ai la possibilité de les empêcher de se poser sur moi. Alors la chair en moi ne me donne pas une mauvaise conscience. La chair en moi, avec ses passions, ses convoitises, ne me donne pas une mauvaise conscience. Ce qui donne une mauvaise conscience, c'est lorsque la chair ayant été écoutée, lorsqu'elle m'a sollicité, que j'ai cédé, que j'ai donné audience aux convoitises qui surgissent en moi, provoquées par celui qui est l'adversaire du croyant, essayant de, par tous les moyens de le faire chuter, lorsque j'ai donné audience aux convoitises, qu'elles ont conçu et qu'elles ont enfanté, hélas, le péché, alors le péché sur moi, c'est un malheur. Alors. Et voilà ce qui me donne mauvaise conscience. Le remède, nous savons bien, nous ne pouvons pas nous étendre. Si l'accident a eu lieu, l'épître de Jean nous donne le remède. Mais, nous répétons que la chair en moi, avec ses passions et ses convoitises, ne me donne pas mauvaise conscience. C'est, disait quelqu'un, au contraire, une occasion de communion avec le Seigneur. Seigneur, aide-moi à réaliser que je suis mort. Me voilà saisi par l'adversaire, par cette convoitise qui me tenaille. Seigneur, aide-moi à m'en délivrer. Mais tout de suite, chacun a pu en faire l'expérience, l'ennemi doit relâcher sa pression. Nous sentons le secours de Dieu. Le Seigneur nous aide à marcher par l'Esprit et à déjouer ce piège de l'adversaire. Évidemment, si nous écoutons cette sollicitation de l'adversaire, si nous caressons cette convoitise dans notre cœur, le mal a commencé dans notre cœur. Il n'y a pas de chute sans qu'elle ait son origine dans le cœur. Elle a été déjà réalisée dans le cœur avant de se manifester à l'extérieur. Donc, c'est dès le moment où cette convoitise m'assaille que je regarde le Seigneur pour pouvoir marcher par l'Esprit et ne pas accumuler les cailloux dans le seau.
Marcher par l'Esprit, n'a-t-on pas là peut-être la plus courte définition de ce qu'est un homme libre, un chrétien libre? Un chrétien qui est animé par le Saint-Esprit, c'est un homme libre. Voilà la liberté en Christ, par excellence. Marcher par l'Esprit, je crois que littéralement, c'est soyez toujours en train de marcher par l'Esprit. Marcher au rythme de l'Esprit, ni plus vite, ni plus lentement. C'est donc être conduit, animé, dirigé par cette source de puissance. Et ce que nous avons dans... Pour revenir un tout petit peu en arrière, la discipline extérieure de la loi n'avait aucun effet, aucune puissance, on ne pouvait rien faire pour nous libérer. Et il faut donc la discipline intérieure du Saint-Esprit, cette discipline intérieure pour nous permettre d'être pratiquement des hommes libres. Ça nous fait peut-être toucher du doigt ce qui est appelé dans l'Épître aux Corinthiens le ministère de l'Esprit. Et nous avons peut-être là trois aspects dans ces versets que nous lisons,
du ministère du Saint-Esprit actuellement qui agit et opère dans les croyants, puisque c'est ce ministère qui nous permet, et nous avons cela au verset 13 jusqu'au verset 15, qui nous permet d'obéir à la loi de l'amour, qui nous permet donc d'aimer pratiquement, d'accomplir la loi. Nous voyons ça au début de Romains 8. Et du verset 16 au verset 21, nous voyons que c'est l'Esprit donc qui nous permet de triompher de la chair. Deuxième aspect, la puissance de cet Esprit. Et enfin, au verset 22, comme nous le verrons, c'est l'Esprit qui nous permet de porter du fruit.
Le verset 16, oui, marcher par l'Esprit. Marcher implique une responsabilité, une décision. Le verset 18, pardon, vous êtes conduit par l'Esprit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Marcher implique notre responsabilité, notre décision, mais par l'Esprit. Vous êtes conduit par l'Esprit, c'est intérieur. C'est une source intérieure de puissance qui nous conduit. Si vous êtes conduit par esprit, il n'y a pas d'article, vous n'êtes pas sous loi. Alors, les Galates voulaient être conduits par loi, par le principe légal, tandis que le croyant est conduit par l'esprit, source intérieure. La loi vient de l'extérieur, l'esprit est intérieur. Et on l'a dit, et c'est juste, même dans un rassemblement, si le niveau spirituel baisse, ça arrive malheureusement, on attache d'autant plus d'importance aux petites choses extérieures. On devient légaliste, on attache de l'importance à telle attitude, à tel vêtement, à telle manière de se comporter, c'est ça qui compte, et ce n'est plus être conduit par l'esprit, mais c'est se mettre sous un certain légalisme. Si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes conduit spirituellement, vous n'êtes pas sous loi, pas sous un principe légal. Ça n'est pas imposé, ça n'est pas des règles que l'on se fixe, mais c'est une source intérieure de puissance. Alors marcher par l'esprit, conduit par l'esprit, et ensuite le fruit de l'esprit. Le fruit, c'est une croissance intérieure. On a semé la graine, une renaissance. La plante croît, et puis petit à petit elle porte du fruit. Mais c'est une puissance de vie qui produit le fruit, ce n'est pas une fabrication. Si on fabrique, c'est artificiel. Mais si c'est la vie qui a produit un fruit, alors c'est intérieur, c'est une énergie intérieure, vitale, qui a produit le fruit. Conduit par l'esprit, pas sous loi.